Les par actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les par actualités du 15 mai 2018. En manchette aujourd'hui, un nouveau service d'accompagnement pour aînés à Montréal. Il a le droit d'avoir sa place. Opération Enfant Soleil remet 85 000 $ pour les hôpitaux de la région. Un plan pour lutter contre les maladies rares au Luxembourg. En entrevue, je reçois Linda Gauthier, porte-parole du regroupement d'activistes pour l'inclusion au Québec, ainsi que Nadine Fortin, cofondatrice du groupe citoyen pour l'amélioration du système de santé mentale au Québec. C'est Hélène Denis qui vous accompagne. Nouvelle tirée de Métro, le journal Métro, alors que de plus en plus d'aînés ont besoin d'aide à domicile et que les intervenants réclament plus de financement, une vingtaine d'organismes ont lancé mardi un projet pour soutenir la mobilité et le soutien des aînés à Montréal. Près de 84 000 Québécois âgés de 15 ans et plus, qui ont besoin d'aide pour aller à leurs rendez-vous médicaux, ont témoigné ne pas avoir reçu assez de soutien, a soulevé la directrice générale de l'organisme Promotion Intervention en milieu ouvert, PIMO, Marie-Josée Dehitte, qui va chapeauter le projet avec 20 autres organismes. Leur but, améliorer les services d'accompagnement d'aînés à Montréal. Des bénévoles et des intervenants professionnels donneront ainsi des heures d'accompagnement et de transport gratuits. Actuellement, avance la directrice générale, trop de gens sont laissés seuls, sans avoir la possibilité de sortir de chez eux en raison de leurs limitations physiques. Grâce à ce projet, les organismes espèrent toucher 250 aînés de 65 ans et plus en situation de handicap. PIMO vient déjà en aide à 200 aînés sans frais sur tout le territoire de l'île de Montréal. Ils utilisent nos services pour des rendez-vous médicaux. Il y a aussi des gens qui font les courses au lieu de faire leur épicerie sur Internet. Il y a des gens qui sortent pour des loisirs, dit la directrice. PIMO, qui travaille normalement avec des professionnels, collabora avec des bénévoles affiliés aux autres organismes participants. Ils espèrent recruter une cinquantaine de bénévoles dans les prochains mois. Tiré de la presse, école spécialisée collecte de fonds pour un terrain de jeu adapté. Au moment de la récréation, Rama, 4 ans, accourt vers la balançoire. Anticipant le fait qu'elle ne pourra y grimper seule, son enseignante la porte pour l'asseoir. La plupart des enfants ont besoin d'aide pour monter sur la balançoire et en descendre, explique la directrice de l'école Saint-Pierre-Apôtre, Isabelle Côté, en regardant la scène. Avec les travaux, des assises plus basses et plus larges, ils devraient pouvoir s'asseoir seuls, être autonomes. Cet établissement public situé dans le quartier Villeray accueille 125 élèves de 4 à 12 ans. Tous présentent une déficience intellectuelle de légère à profonde et ont des besoins particuliers. Constatant l'aspect vétuste, mal adapté et non sécuritaire de la cour de l'école, les parents et l'équipe éducative ont lancé un projet de réaménagement de la cour dont le coût est estimé à 125 000 $. La Commission scolaire de Montréal va participer à hauteur de 25 000 $. Idem pour le ministère de l'Éducation. Le reste devra être financé par l'école. Les parents d'élèves et l'équipe éducative ont donc lancé un financement participatif pour récolter 75 000 $. Ils comptent sur les particuliers, entreprises et fondations pour pouvoir lancer les travaux en juin 2019. La cour actuelle, dont la configuration date de 1994, ne correspond plus aux besoins de l'établissement, qui reçoit de plus en plus de jeunes avec une déficience intellectuelle profonde. Ces enfants utilisent rarement les équipements car ils sont trop complexes en matière de sécurité et d'accès. Chacun doit avoir sa place dans la cour. Nous voulons créer un espace dédié, sécurisé, avec des équipements adaptés, explique l'ergothérapeute de l'établissement, Nathalie Brault. Thank you. Et je vais joindre avec plaisir Linda Gauthier, porte-parole du regroupement d'activistes pour l'inclusion au Québec et DG, si on se fie à votre site Internet. Bonjour, Mme Gauthier.
Bonjour, Mme Denis.
Alors, vous êtes la directrice générale?
Exactement.
Le Réplique, devrais-je dire?
C'est ça, oui. Mm-hmm.
Alors, Le Réplique qui a pris position après l'annonce d'importants travaux programmés à la station Baudry à l'automne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte, Mme Gauthier?
Ben oui, le contexte, en fait, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive dans le réseau de la Société du transport de Montréal. Mm-hmm. Quand on fait des rénovations majeures, nous, on s'attend, en fait, à ce qu'ils demandent une enveloppe peut-être additionnelle, mais pendant qu'on y est, qu'on installe des ascenseurs.
Oui.
Et ils l'ont fait, évidemment, pour la station Angrignon en quelques reprises, Longueuil, Jolicoeur, Beaubien, en tout cas, plusieurs stations.
Mais
et
pas...
là, encore là, on remet ça avec Baudry.
Oui. Et la porte-parole du transporteur a indiqué que Baudry est une station très complexe en raison de sa profondeur, qu'il s'agissait d'un tout autre projet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ben, écoutez, moi, je vous dirais qu'on est allé sur la Lune.
Oui.
Ça, c'est complexe.
Oui.
C'est ça. Dans le monde, il y en a... Ben, écoutez-moi, c'est sûr que vu qu'on a évidemment levé un recours collectif, on a tenté un recours collectif en 2015. Mm-hmm. J'ai pas mal étudié pas mal tous les métros dans le monde, les profondeurs et ces choses-là, ce qui a été fait, le temps, en tout cas, pour faire des comparaisons avec celui de Montréal. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en a des profonds ailleurs aussi.
Quand on parle de profond, on veut dire quoi exactement?
Bien, là, on parle de 29 mètres
ouais.
en ce qui concerne Baudry.
Je sais qu'il y a un tapis roulant infini là, pour se rendre aux rames de métro. Ouais.
C'est ça. La même chose pour Charlevoix. Charlevoix, à peu près ça, 29 mètres aussi.
Ah oui.
Mais on constate qu'en Russie, écoutez, il y en a qui ont près de 40 mètres.
Mm-hmm.
Et pourtant, ça s'est fait.
Bon. Alors, c'est possible.
Selon moi, c'est possible, oui, effectivement. Comme je vous dis, il y a eu des obstacles au niveau des je pense, dans à peu près tous les pays.
Mm-hmm.
C'est sûr qu'on ne sait jamais dans quoi on creuse, mais je trouve qu'on... En tout cas, selon moi, c'est une excuse. On dit aussi que Baudry est enclavé entre Papineau et Berry-UQAM.
Mm-hmm.
Mais c'est pourtant une station bien stratégique. C'est quand même dans un quartier qui est relativement touristique.
Oui.
Et qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens l'été. Alors,
pensez-vous qu'il y a de l'espoir, qu'on pourrait changer d'idée?
Selon moi, non.
Ah non? C'est bouclé dans le béton.
C'est bouclé dans le béton. Puis je pense que c'est bête de dire que le fait qu'ils commettent encore un impair en ayant ce blâme-là sur notre recours collectif, ça vient, pour nous, en fait, c'est comme du bonbon, là, je vous dirais, là.
Ça pénalise combien de personnes, selon vous, approximativement?
Ça, eux disent que c'est le 63e en achalandage sur 68 stations, ce qui est une des dernières.
Mm-hmm.
Mais sauf qu'on a fait l'évaluation avec des personnes qui utilisent le métro. Nous, on ne peut pas l'utiliser. Il faudrait peut-être regarder avec le transport adapté, à savoir combien il y a d'usagers dans les paramètres de cette station de métro-là.
Mm-hmm.
qui pourraient l'utiliser.
Oui.
Ça changerait définitivement la donne d'achalandage.
Bon, alors, j'espère que le message va être entendu par les personnes qui ont des clés pour mettre de l'avant ce projet. Où en est le recours collectif mené contre la STM?
Bien là, évidemment, les gens savent qu'il a été autorisé par la juge Marianne Paquette l'an dernier à pareille date. Et là, on attend... justement, nos procureurs, nous, sont en train de demander des experts, des ingénieurs industriels, différents experts comme ça de par le monde pour qu'ils viennent témoigner parce que c'est facile pour la SCM de dire « Ah, ça coûte très cher, ça crée une contrainte excessive et tout ça », mais il faut voir, avec comparer avec justement du droit comparé, comment on appelle ça, donc, des ingénieurs, en fait, là, qui ont travaillé sur des projets semblables. Un peu ce que je vous disais tantôt, le virus.
Et Madame Réplique, mais c'est pas tout à fait ça. Madame Gauthier, mais on peut aussi vous appeler Madame Réplique.
Linda, c'est... ça va
oui,
aller.
Oui, Linda. Hein. Alors, Linda, c'est le temps des terrasses, peut-être pas aujourd'hui, là, parce que le temps est plutôt sombre, malgré qu'on est bien à l'extérieur. Et le Réplique a un message à passer aux usagers.
Oui, effectivement.
Lequel? Ben,
Lequel? Autant les usagers qui ont sans, qui n'ont pas de limitation que ceux qui en ont. Quand on voit une terrasse qui est inaccessible, c'est-à-dire qu'il y a une marche ou qu'il y a un mobilier qui est surélevé, c'est comme des tables bistrot, des choses comme ça, nous, on ne peut pas, à ce moment-là, accéder à la terrasse ou s'attabler convenablement. Alors, on vous demanderait de bien vouloir, évidemment, regarder l'adresse et tout, nous téléphoner pour dénoncer ça et on monte un tableau de tout ça et par arrondissement, nous, on va signifier notre mécontentement.
Est-ce qu'on peut simplement le dire aux propriétaires?
Ben, c'est parce que de le dire aux propriétaires, je sais pas ce que ça va vraiment changer en bout de ligne, c'est ça qui arrive. On va dire oui, on va en tenir compte, sauf que ça peut prendre 10-12 ans avant qu'il y ait quelque chose qui change. Il y a un règlement, il y a une loi, hein? C'est pas une loi, c'est un règlement. On a une entente devant la Commission des droits de la personne.
Oui, tout le monde a le droit d'aller siroter une sangria, prendre un bon repas en agréable compagnie sur une terrasse. Est-ce qu'il y en a beaucoup de terrasses qui sont accessibles versus les terrasses qui ne sont pas accessibles?
Elles doivent toutes l'être.
Bon. Et elles ne le sont pas toutes?
Non, malheureusement.
Alors donc, on prend l'adresse du resto ou du bar, une ou deux photos, puis on vous l'envoie à vous.
Exactement. Même on peut juste nous téléphoner, on ira prendre les photos si jamais quelqu'un n'a pas de téléphone intelligent. Ou...
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Linda, votre numéro de téléphone ou votre adresse Internet ou les deux?
Bien sûr, c'est le 514-656-1664 ou à l'adresse courriel le.rappeler, K-R-A-P comme Pierre, L-I-Q comme Québec, @commercial.gmail.com.
Linda Gauthier, directrice générale du regroupement d'activistes pour l'inclusion Québec. Merci beaucoup d'avoir
été
avec
Mme
nous.
Denis.
Au
Bonne
plaisir.
Journée.
Vous aussi. Dans le Nouvelliste, il a le droit d'avoir sa place. Depuis sa naissance, les combats de Gabriel et de sa famille se multiplient. Ils ont dû se battre, entre autres, pour de meilleurs soins de santé, pour augmenter l'aide à l'école, et voilà qu'un autre combat se dessine à l'aube des 18 ans du jeune homme. Gabriel est atteint d'une maladie dégénérative, l'amyotrophie spinale de type 2. Pour avoir de l'aide financière, ses parents propriétaires d'une entreprise familiale devront arrêter de permettre à Gabriel d'effectuer des tâches et le garder à la maison parce que tout porte à croire que sa situation ne cadre pas dans les programmes. Une fois plus, ils sortent les armes pour une bataille où l'enjeu est monétaire. Depuis longtemps, Gabriel se rend au garage de mécanique générale, entreprise familiale avec ses parents. Il y va dans un but principal de socialisation, mais effectue aussi quelques tâches dans la mesure de ses capacités. S'il continue selon les indications reçues par ses parents, il se pourrait qu'il ne puisse pas toucher d'argent de l'aide sociale. La famille fait face à un dilemme. Soit elle continue de se rendre au garage bénévolement, soit elle reste à la maison pour avoir de l'argent. Notre but, c'est de l'intégrer au marché dans les limites de ses capacités, sans prendre la place d'un employé, qu'il se sente utile à la société et à la limite à l'entreprise familiale. Il me semble que c'est valorisant autant pour lui que pour nous, a lancé sa mère Karine Thibault. Dans ses démarches au centre local d'emploi, on lui aurait indiqué que selon son diagnostic et ses incapacités physiques, Gabriel était considéré trop lourdement handicapé pour avoir droit aux subventions d'intégration au travail. Opération Enfant Soleil a remis plus de 85 000 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi qu'à l'École Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda qui accueille des élèves avec une déficience intellectuelle. Les porte-parole d'Opération Enfant Soleil, Annie Brocoli et Maxime Landry, étaient de passage dans la région pour cette annonce. Jusqu'à maintenant, plus de 1,1 million de dollars ont été distribués dans la région pour offrir de meilleurs soins et améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés. Je parle maintenant avec Nadine Fortin, cofondatrice du groupe Citoyens pour l'amélioration du système de santé mentale au Québec. Bonjour, Madame Fortin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Dans quel contexte vous avez créé ce groupe Citoyens pour l'amélioration du système de santé mentale au Québec?
Le groupe a été formé en décembre 2016.
Mm-hmm.
Dans le fond, c'est arrivé suite à un événement que j'ai vécu personnellement, que j'ai décidé de partir ce groupe-là.
Lequel? Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce que vous avez vécu?
Oui, je vais dire en gros ce qui est arrivé.
Oui, oui.
Pour être brièvement, c'est que mon père avait été hospitalisé. Il était touché par une dépression majeure.
Ouais.
Il présentait des idées suicidaires importantes. Il avait fait une tentative de suicide, une première tentative.
Mm-hmm.
Donc, suite à ça, on l'a hospitalisé. Il a décidé de se faire hospitaliser. Et puis, 2 jours après, il a voulu quitter. Et puis, nous, on ne pouvait pas le faire.
Il a voulu
porter,
quitter l'hôpital.
Oui, exactement.
Ouais,
ouais. Puis finalement, ils ont autorisé sa sortie.
Ouais.
Sans que nous, à notre grande surprise, finalement, pour la famille.
Vous sentiez qu'il n'était pas prêt de sortir?
Non, ouais. Non, exactement. Puis on n'a pas été rencontrés dans tout ça. Donc, et puis le lendemain de sa sortie, il s'est enlevé la vie.
Oh non.
Donc, ça a été très vite, là. L'hospitalisation, la sortie, le fait qu'on n'ait pas un mot à dire. Et puis que finalement, il était vraiment, il avait besoin de soins.
Oui, évidemment.
Et puis, à cause de la loi P38, qui fait qu'on ne peut pas garder quelqu'un contre son gré à l'hôpital. Donc, lui, il a pu sortir.
Alors, dans votre groupe de discussion, comment ça fonctionne exactement? Ce sont des gens qui ont eu déjà des idées suicidaires. Comment vous les recrutez?
Le groupe, depuis qu'on a fait la page, on a fait une page Facebook, citoyen pour santé mentale. Puis, ça rassemble des gens qui ont vraiment vécu les mêmes problématiques que moi. Donc, on a eu beaucoup de témoignages. Et puis, on recueille tous ces témoignages-là parce que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de situation-là.
Non, malheureusement.
Malheureusement.
Mais malheureusement aussi pour vous, là, évidemment.
Oui, parce que finalement, on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment un problème, pas juste en région, mais au Québec, à ce niveau-là. Puis, on a recueilli déjà une trentaine de témoignages des gens. Puis, sur notre page Facebook, en ce moment, on a des témoignages qui sont filmés de des gens qui dénoncent aussi ce qu'ils vivent. Là. Donc, vous pouvez aller les consulter sur notre page Facebook.
Alors, il y a 6 vidéos de personnes qui racontent leur passage dans le système de santé. Est-ce que vous pouvez
exactement
nous résumer leurs propos en quelques minutes?
Ben, en fait, c'est ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est toutes des gens de différents. Il y en a une que c'est une infirmière qui est retraitée, qui travaillait 30 ans en psychiatrie, entre autres, qui parle de son expérience. Il y a la mère d'un fils schizophrénique avec dépendance. La mère d'un fils aussi atteint d'un choc post-traumatique. Un autre, c'est un garçon qui est la mère d'un garçon qui est désorganisé. C'est tous des parents, des proches qui vivent vraiment des situations que leurs enfants ou leurs proches sont vraiment laissés à eux-mêmes dans le système. Autant que les proches sont laissés à eux-mêmes, ceux qui demandent de l'aide aussi.
À quoi ça sert ces vidéos-là? C'est sûr que ça sensibilise, mais est-ce que ça amène à des
nous,
résultats?
On a lancé la campagne de sensibilisation la semaine dernière. Donc, on a lancé la campagne avec ces 6 vidéos-là. Le but, c'est d'amasser le plus d'appui et de témoignages, là, parce qu'on va avoir plus de poids quand on va aller parler faire des représentations au gouvernement.
Vous avez l'intention d'aller faire des représentations?
Exactement.
Est-ce que vous savez déjà quel genre de recommandations vous allez faire au gouvernement?
Là, c'est ça. Là, on n'a pas encore... pour l'instant, là, on cherche le plus de
témoignages.
De témoignages pour arriver avec un bon dossier. Là, pour vraiment démontrer là, que c'est vraiment...
Il y a des choses à faire, il y a des changements à porter.
C'est toujours les mêmes problématiques qu'on remarque. Donc, il y aurait des solutions. Donc, juste d'essayer de faire bouger les choses et amener un certain changement.
Ouais. Alors, si je comprends bien le groupe de discussion, les gens ne se rencontrent pas en chair et en os. Là. Ça se fait par les réseaux sociaux.
Oui, c'est ça. Les gens, ils nous envoient soit un message. que ça soit leur témoignage ou juste leur appui qu'ils aiment. Donc, plus on va avoir de gens qui nous supportent, plus on va avoir de poids.
Oui, tout à fait. Et comment on peut joindre votre mouvement ou avoir plus d'informations si on veut?
Sur notre page, là, tout est... donc, c'est ça, c'est citoyen pour santé mentale. On a juste à marquer ça.
D'accord.
Puis, on va arriver directement. Puis, on voit tout, là, qu'est-ce qui se passe aussi. Puis, nous, c'est ça, là, on a formé ça en 2016.
Mm-hmm.
Là, on a fait le lancement, là... T'sais, on est comme dedans, là. Fait
oui, oui.
Pas, mais on espère bien là, que...
Ça va porter fruit.
C'est ça, exactement. Bon, c'est pas comme demain matin qu'on va faire des changements. Là,
Non, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de miracle.
C'est ça, mais on travaille là-dessus.
Il faut y croire, il ne faut pas lâcher. Puis on va c'est vous suivre, nous aussi. Alors, Citoyens pour santé mentale, Nadine Fortin, cofondatrice du groupe Citoyens pour l'amélioration du système de santé mentale au Québec. Merci, puis je vous souhaite une belle journée.
Bien, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée à vous.
Une nouvelle du Bloc international, l'essentiel.lu, un plan pour lutter contre les maladies rares au Luxembourg. Le gouvernement veut proposer un meilleur accompagnement aux 30 000 personnes qui souffrent d'une maladie rare au Grand-Duché. Ceux qui vivent avec une maladie rare devraient prochainement être mieux soutenus. La ministre de la Santé, Lydia Munch, a lancé lundi son plan national maladies rares. Pour l'année en cours, 300 000 euros sont budgétisés. Le plan est constitué en 6 piliers stratégiques qui sont censés être réalisés en 5 ans grâce à 57 mesures concrètes. L'objectif est d'améliorer les diagnostics et la thérapie. Un réseau de spécialistes doit collaborer dans le but d'orienter les patients dans le labyrinthe des médecins, thérapeutes et personnels soignants. Actuellement, un quart des quelques 30 000 personnes concernées au Luxembourg doivent attendre entre 5 et 30 ans pour obtenir un diagnostic. D'où un sentiment d'abandon par le système de santé. Une maladie rare constitue une épreuve pour un malade et sa famille, reconnaît la ministre de la Santé. Nous voulons rendre les patients plus forts et les aider à mieux s'intégrer dans leur vie. Au niveau européen, entre 5 000 et 7 000 maladies sont considérées comme rares parmi les plus de 30 000 répertoriés. Pour la plupart, il s'agit de maladies génétiques qui apparaissent dès l'enfance. Dans info974.com, le top départ du Run Andy Tour a été donné vendredi matin dernier au centre de rééducation du CHU de La Réunion au Tampon. 4 challengers accompagnés de 12 pousseurs se sont ainsi lancés dans un tour de l'île en fauteuil roulant. Ils seront suivis par des marcheurs et en fin d'étape, les personnes à mobilité réduite termineront leur périple. Soit un parcours de 16 étapes de 220 km sur le littoral réunionnais avant l'arrivée au tampon, prévu le 19 mai prochain. Amdi Razakou Ousseni Koko et Cédric Bousman, hospitalisés au centre de rééducation de la ville, sont à l'initiative de l'événement. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on n'est pas handicapable. L'objectif est également de porter ce message haut et fort afin de sensibiliser et d'interpeller la population réunionnaise. Dans westfrance.fr Bretagne, une barge pour les personnes à mobilité réduite. Le cercle nautique de la RIA, présent sur le salon du bateau transportable samedi 28 et dimanche 29 avril, y a inauguré une toute nouvelle barge. Et l'invention est révolutionnaire. Philippe Guel, président du cercle nautique jusqu'à l'automne dernier, et Yannick Bihan, patron du chantier naval Bretagne Sud à Bèze, voulait permettre aux personnes à mobilité réduite de faire de la plongée. On a travaillé tous les deux sur la conception, un vrai défi, explique Yannick Le Bihan. Pour notre chantier, c'était complètement nouveau de prendre en compte l'accessibilité de ce public. En quête d'inspiration, le duo recherche tous azimuts ce qui avait déjà été fait. On n'a rien trouvé, il a fallu tout inventer. On a conçu le prototype de A à Z, raconte Philippe Guel. Plan, études, gestion des espaces à bord, tout est pris en compte pour faciliter l'accès. Le duo travaille sur le projet plusieurs mois. La fabrication dans les ateliers du chantier prendra à elle seule 3 mois. Le résultat est une barge unique en son genre de 10 mètres sur 3, tout en aluminium. On voulait travailler avec un matériau recyclable, précise Yannick Le Bihan. Elle peut embarquer jusqu'à 20 personnes. La plateforme est à hauteur de ponton, donc pas besoin de rampe. Les bancs sont amovibles, le duo était fier de présenter un modèle si innovant. La barge, qui a très peu de tirants d'eau, peut naviguer partout sur la rivière d'Étel. Elle sera très utile pour la plongée, y compris pour des personnes valides, précise Boris François, directeur du pôle nautique. Invitation au thé rencontre du 16 mai au RAM, les obstacles en emploi. Venez prendre le thé et discuter avec d'autres membres d'Accessibilité en emploi et des obstacles qui sont rencontrés quand on vit avec un handicap visuel, que vous soyez actuellement en emploi, retraité ou sans emploi. Vous êtes tous les bienvenus pour partager vos expériences personnelles ou exprimer vos appréhensions face au marché du travail. Cette rencontre, ce thé rencontre, est animé par José Boyer. C'est mercredi 16 mai, demain, de 13h30 à 15h. 3 $ pour participer. Et la participation de 5 personnes minimum est requise pour la tenue de cette activité. Vous pouvez joindre Anna pour vous inscrire ou pour plus d'informations au 514-277-4401, poste 111, 514-277-4401, poste 111, ou par courriel administration@ram.org. Un grand merci à Linda Gauthier, porte-parole et directrice générale du Regroupement d'activistes pour l'inclusion au Québec, ainsi qu'à Nadine Fortin, cofondatrice du groupe citoyen pour l'amélioration du système de santé mentale au Québec. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson à la recherche et Jean-Sébastien Laliberté à la technique. Merci à vous d'avoir été présents et à l'écoute. Je vous retrouve demain, j'espère. Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée.